Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC.
Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Et je considère Dimitri un des génies modernes du football.
After Marseille.
Thibaut Giangrande.
Salut mes Marseillais, comment ça va? Bienvenue dans l'After Marseille, le podcast qui débat de l'actu de l'OM toutes les semaines, dispo sur toutes vos applis, sur les applis RMC, RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner. Convoqué pour ce dernier épisode de l'année, Florent Germain en direct de Marseille. Salut Flo.
Salut Thibaut, salut à tous.
Et coach Courbis, salut mon Roland.
Salut les amis.
Clap de fin sur 2023, et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que l'année aurait pu se terminer bien plus mal pour l'OM. Il y a 3 mois, il a fallu tout recommencer, changement de coach, de système. L'OM a glissé jusqu'à la 12e place de Ligue 1 en novembre, mais le redressement depuis est impressionnant. Grâce à qui, aujourd'hui, on fait l'évaluation de cette première partie de saison. Les catégories, vous les connaissez, messieurs, dames. Taulier, révélation, boulet, et puis Flo nous donnera ses premières pistes pour le mercato d'hiver, les premières petites indiscrétions. Flo, la parole à toi. Qui est le taulier de l'Olympique de Marseille?
Alors, on a le droit qu'à un seul joueur.
Allez,
faut que tu poses les règles très clairement, mon cher Thibaut, parce que là...
Normalement, c'est un, mais là, c'est Noël. C'est deux aujourd'hui, voilà.
Tu m'en laisses deux.
Et ne me remercie pas.
Écoute, pour moi, mes deux tauliers seront Chancel Bemba et Jonathan Clauss. Je peux détailler, argumenter, essayer de convaincre s'il faut, mais voilà, je donne les noms, Chancel Bemba, Jonathan Clauss.
On va d'abord entendre ceux de Roland et on va détailler juste après. Est-ce que tu partages, est-ce que tu avais d'autres noms, coach? Est-ce qu'au vu des dernières semaines, un Aubameyang y est ou est plus très loin? Tu mets qui, toi?
Les dernières semaines, oui, mais un petit peu avant, non, puisqu'il était quand même critiqué parce qu'il était critiquable, mais il était critiquable aussi parce qu'il était mal entouré, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, je mettrai quand même Gigot, qui me paraît être une force sûre. Et ce n'est pas facile après de choisir entre Mbemba et Clauss. Je choisirai Mbemba quand même, notamment pour ses buts.
Bon, Bemba, donc oui, Gigot, Clauss, quoi, en fait.
Voilà.
Si tu en as deux. Flo,
non,
pourquoi
Gigot, Mbemba.
Pourquoi Mbemba, par exemple, là, plutôt que Gigot pour toi, Flo?
Écoute, Gigot, oui, dans sa personnalité, dans son rôle important dans le vestiaire, le fait qu'il soit devenu l'un des capitaines, enfin le capitaine après Valentin Rongier, pourquoi pas, mais pour moi, dans ses performances, on n'a pas un Samuel Gigot encore à 100%. Je l'ai trouvé peut-être meilleur par séquence la saison passée, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les tauliers. En revanche, Chancel Bemba, pour trois raisons. Même si la défense à 3 elle est arrivée tardivement, je pense que ce système lui va très très bien. On en a dédié un podcast, on a expliqué aussi, et c'est la deuxième raison, le rôle important qu'il prenait sur le terrain. J'ai l'impression qu'il a pris pour lui le message comme quoi Gattuso voulait plus de leadership et qu'il fallait que certains joueurs expérimentés sortent un peu de leur réserve, et je pense qu'il le fait de mieux en mieux. Et puis après, il y a son côté buteur, enfin ça devient presque une arme fatale sur les coups de pied arrêtés. Donc pour moi, c'est vraiment l'un des tauliers, Chancel Bemba, quelqu'un de régulier qui a eu des offres. La Provence évoquait une offre de l'Arabie Saoudite qui l'a un peu fait cogiter cet été, enfin qui a fait cogiter surtout les dirigeants, alors que lui voulait s'installer dans la durée à Marseille. Donc Chancel Bemba, je pense que c'est un joueur important de ce vestiaire et de l'équipe.
Si vous n'avez pas écouté encore, il était au centre de notre podcast After Marseille la semaine dernière, Bemba, n'hésitez pas. Tu nous diras pourquoi tu mets Clauss également dans un instant, Flo, mais
oui.
Coach, Clauss, tu le mets pas dans les tauliers?
Mais il faut que je choisisse obligatoirement, ouais. Sinon j'aurais mis un deuxième ex-aequo. Donc
ça aurait été lui l'ex-aequo.
Gigot et Clauss.
Ouais.
J'aurais mis Mbemba par rapport à sa présence et à son efficacité sur le plan des buts. Donc voilà, sinon c'est pas facile quand même.
Mais Flo mette Clauss dans le taulier,
ah bah oui,
tu valides.
Ça serait moi 50-50 avec Gigot.
Ouais. Flo ?
Non, mais Klos, je vais expliquer pourquoi je le mets, même si là, il reste sur des performances où il est un petit peu plus émoussé. Il y a eu aussi des petits tracas personnels qui ont joué dans peut-être un mois de décembre un peu compliqué. En tout cas, Jonathan Klos, il est arrivé déterminé, et il s'en expliquait en plus quand il a été interviewé sur RMC là, avec Jérôme Rotem, notamment en début de saison. Il a réussi à switcher complètement et à oublier une saison qui avait été hyper douloureuse avec la non-sélection en Coupe du Monde. Ça avait été un petit peu un poids pour lui pendant de longs mois. Et en fait, il a eu cette force de caractère de tourner la page. Et c'est vrai que certains coéquipiers ou même au sein du staff, quand il est revenu cet été à l'entraînement, lui ont dit « Oula, mais tu voles cette année !» Parce qu'il faisait des séances d'entraînement qui étaient assez extraordinaires. En fait, ça s'est ressenti aussi sur la pelouse. Il a regagné sa place en équipe de France. Il était assez radieux. C'est quelqu'un qui, sur la pelouse, à l'entraînement ou en match, parle beaucoup, se sent très à l'aise ici, et j'ai le sentiment qu'on a retrouvé vraiment le Jonathan Klos qui a été incontournable, notamment à Lens ou par séquence à l'OM. Donc c'est pour ça que je l'ai mis taulier.
Bon, et ce qui est intéressant aussi, c'est que heureusement que ce thème arrive maintenant et qu'il y a eu la bonne période de l'OM. C'est vrai que sinon, il y a encore quelques semaines, on aurait eu du mal à sortir des tauliers ou même,
t'as tout à fait raison,
ou même des révélations, qui va être notre deuxième catégorie sur ce bilan de première partie de saison. Flo, coach, et Flo, la parole à la défense, qui est ta révélation de l'année. Bah tiens, coach, pour commencer, la révélation de l'OM.
Agréable surprise, révélation, Murillo. Mm-hmm. Je ne m'y attendais pas du tout. Je disais, bon, ils sont allés le prendre dans un endroit qu'on n'est pas habitué. Et là, je suis quand même assez surpris. Et en plus que je le trouve bon, je trouve une tête et un comportement sympathique. Donc, c'est lui, pour moi, la révélation, tout simplement parce que je m'y attendais pas, je ne connaissais pas.
Flo, ta révélation.
Non, mais Murillo, je l'avais mis, effectivement. Oui. Écoute, j'ai mis deux joueurs, pareil, pour les révélations. Murillo, parce que c'est la bonne surprise. Tout le monde est d'accord pour ça. Les supporters l'apprécient. Il fait de bonnes entrées en jeu. Et puis, ça devient une solution intéressante pour Gattuso. Donc, cette case est faite pour lui, révélation. J'ai également mis Amin Harit parce que, alors on découvre pas Amin Harit évidemment, mais j'ai mis Amin Harit parce que pour moi c'est une révélation de le voir à ce niveau si vite. Je m'attendais pas honnêtement à voir Amin Harit
jouer aussi souvent,
à jouer autant, à être plutôt performant. Alors évidemment il y a un peu de déchets, on va pas non plus trop demander à un joueur qui il y a un an a eu une immense blessure, mais Amin Harit moi me bluffe, et quelque part c'est un peu la révélation de le voir revenir si vite. C'est aussi une très très bonne surprise, parce que je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Je peux vous garantir qu'au sein de l'OM il y avait des interrogations, va-t-on retrouver un Amin Harit performant comme il l'était avant la blessure. La réponse est oui, avec une amélioration qu'on espère tous devant le but, être plus tueur peut-être dans la zone de vérité, mais c'est déjà énorme ce que fait Amin Harit un an après sa grave blessure.
Coach, Flo met Harit en révélation. Bon, vraiment en tenant compte de la blessure, évidemment.
Oui, mais c'est vrai que ça passe vite. Quand c'est arrivé, on était justement ensemble à côté à Monaco. Avec Flo, c'était quand même une soirée assez triste, puisqu'il ratait en même temps la Coupe du Monde.
Il y a un an. Ouais.
Et pour être même honnête, j'étais pas loin de le mettre dans les tauliers, tellement pour moi la performance est forte. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans les révélations par rapport à la blessure, tu le disais.
Ouais, après, taulier, si, tu aurais été gentil, parce que bon, certes, j'ai la blessure, il faut en tenir compte, mais il y a quand même toujours ce souci dans le dernier geste. C'est...
Oui, oui, non, mais après, tu es un peu obligé aussi de mettre en perspective et d'expliquer après le choix, parce qu'à la limite, même Klos sur les dernières semaines, c'est un petit peu moins ça, ou Mbemba a eu des périodes où c'était pas top, donc tu étais un peu obligé d'expliquer et de mettre en perspective. Et donc je disais que si j'avais pas mis Harit dans les révélations, tu m'aurais laissé une autre place, et du coup j'aurais mis Balerdi. Parce que je pense que là c'est pareil, c'est un joueur qui part de très très loin, qui est très critiqué. Et malgré tout, depuis quelques matchs, dans cette défense à 3, je pense que voilà, il. Je ne dis pas qu'il met tout le monde d'accord, parce qu'il y a toujours des débats le concernant, mais malgré tout, il y a moins de débats, ce qui est déjà quand même un grand pas, parce que c'était récurrent, et je peux en témoigner, toutes les semaines, il y avait un débat Ballardi, et depuis que le choix a été fait de passer à trois axios, je pense qu'il se révèle un petit peu plus.
C'est vrai qu'il s'améliore. Bon, de là, la révélation, il abuse un peu, Flo.
Non, c'est... Voilà.
Bah, disons, par contre, il a tellement été critiqué, c'est un peu pour le récompenser des progrès qu'il a pu faire. Et s'il continue comme ça, ben ça va devenir un très bon joueur. Pour le moment, je le trouvais, moi. Alors, je le trouve encore moyen.
Flo, coach, et vous tous qui nous écoutez. D'ailleurs, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux de l'After, sur Twitter, la X, sous le post de ce podcast, à mettre également vous à faire votre évaluation, taulier, révélation. Et là, on arrive à la catégorie où finalement, il y a un mois et demi, on aurait pu mettre tout le monde dedans. Le boulet, de l'Olympique de Marseille sur cette première partie de saison.
Donc Casper Boulet, c'est pareil, on est d'accord.
Ouais,
hein, parce que,
oui. Après, bon, les nuances, on peut on va mettre dans Boulet, mais il peut y avoir des
non,
des
mais pour moi, c'est un peu dur, hein, évidemment. En plus, quand on est suiveur d'un club, je veux dire, tu vois les performances, mais aussi tu connais un petit peu les joueurs, donc t'as pas envie non plus d'être trop. Trop sec. Mais pour moi, Joaquim Correa, sur ses matchs, est un boulet. C'est-à-dire que, j'exagère quand je dis le terme, mais il est très décevant. Il est très, très décevant.
C'est vrai qu'il serait presque peut-être plus Casper, lui, quoi, parce que vraiment, tu le vois pas, en fait.
Ben, je m'attendais à mieux. Je suis curieux de voir si dans le système avec deux attaquants, il va pouvoir peut-être tourner autour d'Aubameyang, surtout avec les absences pendant la Coupe d'Afrique des Nations de Ndiaye et de Sarr. Donc ça, suivez-moi, ça veut dire que Vitinha-Aubameyang, ça va être la paire, je pense, titulaire dans un 3-5-2. Et donc, de temps en temps, pour faire souffler Vitinha, Correa aura son mot à dire, sauf qu'il est encore blessé à la cheville. Au moment où on enregistre, on peut dire que normalement, il ne fera pas le match à Montpellier. Donc ça voudrait dire que ça aurait été vraiment une demi-saison galère. Mais bon, si vous demandez à Correa, est-ce que tu es content de tes débuts à l'OM, lui va te dire bah non, c'est la cata, j'y arrive pas pour le moment. Donc,
ou alors lui-même, il te dit oui, et là tu peux vraiment être inquiet.
Non, il dira pas oui. Il a peut-être des circonstances atténuantes parce que voilà, la période de l'OM était compliquée quand il a été lancé. Mais voilà, je mets pas un avis définitif sur lui. Je pense que dans une position un peu plus axiale, peut-être qu'on peut retrouver un bon Joaquim Correa. Donc là, je juge uniquement ces quatre premiers mois. Quoi.
Coach, espérons, dans le sens que jusqu'à maintenant, ben, malheureusement, je suis d'accord avec Flo.
C'est Correa, ton boulet pour toi aussi?
Boulet, Casper, appelle ça comme tu veux. C'est-à-dire que bon, on se demande même qu'est-ce qu'il fout là.
Absolument. Conséquence de notre évaluation.
On aurait pu mettre d'autres joueurs aussi, oui. Évidemment, hein, parce qu'il y a des joueurs qui ont déçu, mais
des Ndiaye, des Unai qui sont pas loin, quoi.
Exactement. Ouais. Même parfois Ismaïl Assar, même s'il a mis trois buts en Ligue 1 et parfois il a fait de bonnes choses, mais il y a des joueurs très clairement dont on attend plus et ils ont forcément une revanche à donner aux supporters marseillais parce que certains étaient annoncés comme de vraies bonnes recrues et pour le moment elles ne sont pas à la hauteur.
Les dirigeants marseillais font probablement à peu de choses près le même constat que nous, que vous également. Le mercato arrive, la CAN aussi.
Juste après Correa, moi j'aurais mis Ndiaye.
Ouais, bah il était dans les. Ouais, ouais, ça...
Donc, et aussi par rapport à ses performances ou ses contre-performances, mais aussi par rapport au prix. On parle uniquement que du prix de Vitinha, 32 et 17 Ndiaye, c'est quoi? C'est de la monnaie.
Oui, non, mais c'est sûr. Après, il y a ce paramètre que lui, il s'est mis une énorme pression, trop de pression. Ça a été vendu, survendu, comme la belle histoire du Minot qui avait fait l'essai à Marseille, qui a l'OM en lui, qui avait jonglé devant la gare Saint-Charles, etc. Et à un moment donné, tu le payes. Ouais. Donc, à la limite, mettons tout le monde dans le même bateau, c'est-à-dire les supporters qui se sont peut-être trop enflammés sur un joueur que certains, je pense, avaient vu deux fois dans des résumés vite fait le dimanche. Donc peut-être que cette pression mise lui a desservi.
Et justement,
après,
Flo,
faudra qu'il assume aussi. Hein.
Pour conclure avec le mercato qui arrive, la CAN également, tu as des petites infos, première petite piste à nous glisser sur les profils recherchés à Marseille.
Écoute, non, mais il faut résumer et effectivement être prudent parce que je pense que la donne a pu changer avec justement le système de jeu qui a un peu évolué. Mais les pistes prioritaires pour l'OM et Pablo Longoria, j'invente rien, on avait aussi parlé lors de l'interview qu'on avait faite ensemble. Il veut absolument un latéral gauche pour permettre à Lodi parfois de souffler. C'est pas forcément un joueur qui est censé être titulaire à 100%, mais malgré tout, faut que il y a une autre solution au poste de latéral gauche. Vous avez vu que Murillo, quand il était, quand Lodi n'était pas là, il était obligé de glisser sur ce côté-là. Donc, ça pose un peu des problèmes dans l'organisation de Gattuso. Donc, un latéral gauche, un attaquant plutôt profil ailier et peut-être faux pied, parce que Gattuso n'a pas trop ce profil-là, notamment à droite, un gaucher qui viendrait, pourquoi pas, offrir la solution de jouer sur le côté ou de jouer dans l'axe, par exemple autour d'Aubameyang. Mais j'imagine bien un profil ailier gaucher arrivé à l'Olympique de Marseille. On verra si ça se concrétise. Et puis, je ne sais pas si Pablo Longoria est sur la même longueur d'onde avec Gattuso, parce que Gennaro Gattuso veut beaucoup de recrues. Je pense que lui, si on écoutait l'entraîneur italien, il en demanderait au moins 3 ou 4. Mais il y a un milieu de terrain qui est recherché. En tout cas, l'OM aimerait renforcer ce secteur-là, surtout le coach Gattuso, parce que Unai, Harit vont partir à la Coupe d'Afrique des Nations, plus Ismaïla Sarr et Ndiaye et Mbemba. Mais concernant le milieu de terrain, Unai et Harit, Rongier est blessé, Kondogbia est un peu fragile, donc c'est un secteur de jeu, tout le monde en convient, dans lequel il faudra forcément un peu de renfort.
Le retour de Gueye a été quand même très intéressant.
Oui. Et le point d'interrogation pour finir, c'est de savoir si lui va faire la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il est revenu évidemment assez tard. Je ne suis pas dans les petits papiers de la liste sénégalaise, mais bon, vous vous en doutez qu'à l'OM, on se dit si jamais il n'était pas sélectionné, ça serait une possibilité supplémentaire au milieu de terrain.
Presque
parce que, évidemment, ouais, presque une recrue. Tu as tout dit, parce que l'OM a besoin de monde au milieu.
On n'a qu'à le mettre sur le banc à Montpellier.
Merci Flo, merci coach. Merci
on suivra ça de près. Ciao les amis.
Salut, Jimmy, merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Des bons joueurs sous le sapin et on se retrouve début 2024 pour un nouvel épisode. Ciao.
RMC After Marseille.